RCF. Bonjour à toutes et à tous. Récemment, j'assistais à une conférence de l'économiste français Philippe de Sertine. Et Philippe de Sertine nous disait que si on voulait bien arbitrer le monde qui bouge d'aujourd'hui, il fallait donc se poser trois règles. La première règle, c'est d'avoir un langage commun. En effet, il soulignait qu'aujourd'hui, dans le dialogue entre les États du Nord et les États du Sud, notre langage n'est pas commun. Pour les uns, quand on parle de développement durable, on évoque la question de la biodiversité, de l'écologie, de la sobriété, de la frugalité. Et pour les autres, les États du Sud, eh bien, quand on parle de développement durable, on évoque l'égalité entre les hommes et les femmes, on évoque la question de l'éducation, de la santé, du bien manger. Bref, sous le mot développement durable, on ne met pas les mêmes sens. Et toujours selon Philippe de Sertine, la deuxième règle, c'est de ne pas avoir peur de sa propre peur. Car en effet, quand l'homme a peur, que fait-il ? Il interdit, il réglemente. La preuve en est, sur l'intelligence artificielle, comme on ne sait pas très bien où cela va nous mener et qu'on en a peur, eh bien, l'Europe crée un règlement pour réglementer l'intelligence artificielle, au détriment peut-être de notre capacité à innover. Et la troisième règle, c'est justement celle de l'innovation. Pour innover, ne soyons pas trop nombreux, vive les petites entreprises. D'ailleurs, Mark Zuckerberg le dit très très bien, depuis qu'aujourd'hui ils sont 50 000 employés chez Facebook, eh bien, ils n'inventent plus rien. Ils ont inventé un réseau social qui aujourd'hui regroupe des millions et des millions d'utilisateurs, avec en face une incapacité à innover. La seule chose qu'ils ont été en capacité de faire, c'est de racheter Instagram et WhatsApp, mais ils ne l'ont pas créé. Et il en va même jusqu'à dire, Mark Zuckerberg, qu'il préférerait avoir 50 000 petites entreprises que 50 000 collaborateurs. Bref, vous l'aurez compris, si on veut développer notre monde durablement, il faut 1. Parler le même langage, 2. Ne pas avoir peur, 3. Être suffisamment nombreux, mais pas trop nombreux, pour pouvoir innover. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. J'espère que vous vous portez toutes et tous très très bien. Cette semaine, on évoque une question qui est au cœur des préoccupations des Français et de leur quotidien, qui est celle de l'inflation. Avec notre invité du dossier de l'écho des solutions, il s'agit d'Anno Kuanatan, qui est économiste, docteur en économie de Paris Dauphine, qui participe à différents hauts conseils, dont celui du conseil scientifique de l'Institut Rousseau. Et puis il enseigne l'investissement responsable et la data science à la Neoma Business School. Il vient de publier un ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Pauvres. Et avec lui, justement, on va explorer dans notre dossier cette question. En quoi l'inflation est-elle créatrice de nouveaux pauvres? Et puis, quels sont aussi les chemins d'espérance? On retrouvera notre chroniqueur de cette semaine pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ce n'est pas Pierre Collignon, mais bien Nicolas Masson qui interviendra pour les EDC. Et puis, à la fin de cette émission, on aura notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Avec lui, on évoquera une question assez centrale et qui est peut-être un corollaire parfois à la forte inflation, qui est comment aujourd'hui une banque accompagne les publics les plus fragiles dans la réussite de leur vie professionnelle et pas uniquement dans l'équilibre de leur compte bancaire. On verra ça avec Laurent Marteau, il est directeur de l'agence Grand Ouest Coopération qui accompagne justement ces publics fragiles, qu'ils soient particuliers ou que ce soit des entreprises. Et notre invité éco de cette semaine, lui, nous évoque une solution pour répondre à une problématique centrale chez un certain nombre de Françaises et de Français, qui est la démultiplication de manière exponentielle des coûts d'abonnement des plateformes de streaming, mais ça peut être aussi de vos abonnements à des quotidiens, à des journaux. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec mon invité éco de cette semaine. Il s'agit de Guillaume Lochard, cofondateur de Split. Bonjour Guillaume.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer Split. Split, c'est une plateforme qui permet à celles et ceux qui ont des comptes de streaming, et on ne va pas citer les grandes marques, mais c'est un grand N rouge, ou alors une grande croix blanche sur fond noir, et il y en a plein d'autres aujourd'hui, qui permettent non pas de partager les comptes, si quand même un petit peu, mais permet surtout de réduire le coût que peuvent avoir ces plateformes dans nos budgets respectifs. Quelle place, Guillaume Lechard, avant d'entrer dans les spécificités de Split, quelle place prend aujourd'hui ces usages dans l'économie des Français, dans le budget des Français ?
Ben, on sait que les abonnements, depuis quelques années, se développent énormément et ils prennent une place de plus en plus importante dans le budget des Français, des Européens et dans le monde entier de manière générale, parce qu'on consomme de plus en plus de services, que ce soit pour du divertissement, que ce soit pour de la télé, de la musique, des jeux vidéo, de la presse, mais que ce soit aussi pour des utilitaires via des formules d'abonnement. Donc ça prend une part de plus en plus importante. C'est difficile de donner un prix ou un budget moyen par personne, mais on sait que ça fait que de progresser d'année en année. En fait.
Le fait d'utiliser à l'usage ces plateformes plutôt que d'avoir en propriété propre des DVD ou des cassettes vidéo VHS pour les plus anciens, on utilise ce dont on a besoin et on paye un abonnement pour pouvoir utiliser ce qu'on veut quand on veut.
Exactement. Et je pense que effectivement, on consomme ce que l'on veut et ce que l'on a besoin. Mais avec les abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs, 4, 6 personnes, bah, on consomme rarement finalement tout ce qu'on a payé et souscrit. Et du coup, il peut y avoir aussi une notion de gaspillage ou souscrire à quelque chose qu'on n'utilise pas pleinement finalement ou dont on profite pas pleinement.
Comment est née l'idée de Split, Guillaume Lechard ?
Alors l'idée, elle est née très simplement d'un usage que mon associé Jonathan a eu à l'époque, c'est je partage un abonnement avec une personne en dehors de mon foyer, gracieusement, parce que je la connais, c'est quelqu'un de ma famille. Et puis à un moment vient l'idée aux deux personnes de s'abonner à un autre service, mais finalement c'est l'autre qui paye, donc il y a des comptes d'apothicaire pour équilibrer les comptes, parce qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre. Mmh. Et il faut faire un virement de 3,17€ tous les mois de l'un vers l'autre. Et en 2019, quand on s'est lancé, donc ça fait 4 ans, on va fêter notre 4e année ce mois-ci, la seule solution qui existait, c'était de saisir un IBAN de la personne pour faire un virement récurrent tous les mois. Il n'y avait pas d'autre solution à l'époque, et c'est comme ça qu'est né Split, en disant je vais créer un système où je sais que c'est tel abonnement, je le partage avec telle personne, elle me doit tant tous les mois, je vais voir très facilement si elle m'a payé ou pas, plutôt que d'avoir une ligne dans mon relevé de compte qui va être complètement noyée et absolument illisible, savoir qui a payé sur quoi. Donc c'est comme ça qu'est née l'histoire, et très vite la plateforme a été mise en ligne. Très vite, on a eu des gens qui nous ont dit c'est génial ce que vous faites, mais moi je suis passionné de manga japonais, je sais pas avec qui partager, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelqu'un. Et dans un deuxième temps est née la place où on met toutes les annonces. Et les propriétaires qui ont des places vacantes viennent mettre à disposition les places vacantes et trouvent finalement des co-abonnés via la plateforme. Et nous, on sécurise la relation et la transaction entre les deux.
Donc, vous faites toutes les plateformes aujourd'hui, c'est-à-dire quel que soit le compte de plateforme, on peut l'intégrer sur Split, ou il faut quand même que vous validiez la plateforme qui va être proposée aux internautes.
C'est un point très important, et depuis le premier jour, on valide, nous, et on référence uniquement les abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs. On se réserve le droit de vérifier les factures, on pourra s'assurer de la conformité, s'assurer que c'est bien un abonnement 4 personnes, 6 personnes, si il est déclaré en tant que tel. Donc on fait vraiment en sorte de partager uniquement les comptes, les abonnements multi-comptes. Et on a vu un changement. Quand on a commencé en 2019, on avait 70 services référencés. Aujourd'hui, on en a plus de 220. Et non pas qu'on en avait oublié, c'est juste que de plus en plus de services proposent des abonnements partageables, multi-comptes, multi-utilisateurs. Donc on voit que c'est aussi une évolution de marché. C'est un changement, j'allais dire, unilatéral, où n'importe quel éditeur crée une offre multi-utilisateur dans son offre d'abonnement.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle est la part d'économie que peuvent faire sur un budget, par exemple, les splitters, puisque c'est comme ça que vous appelez votre communauté,
ouais.
Guillaume?
Écoutez, en moyenne, on s'est amusé à le calculer, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des écarts types importants, mais on était à 300€ en moyenne par personne. Mais on a mis sur notre site, pour ceux qui sont nos clients et qui l'utilisent, un calculateur automatique pour calculer pour eux personnellement leurs économies. Et on a beaucoup de clients qui sont à plus de 1000€ d'économies par an sur leurs abonnements. Et en fait, c'est pas des gens qui sont forcément des hyper consommateurs. C'est juste que, j'allais dire, quasiment l'intégralité de leurs abonnements qui peuvent se partager sont sur Split, soit en tant que propriétaire ou soit en tant que co-abonné. et finalement ça chiffre très très rapidement. Donc 1000 euros d'économie, c'est possible, mais en moyenne on va être à 300 si on n'a qu'un abonnement. Tout dépend le prix de l'abonnement. Si c'est un abonnement qui revient à 3 euros, bah 3 euros par mois d'économie, ça va pas faire un chiffre énorme à la fin d'année. Mais si c'est un abonnement qui coûte 20 euros par mois, en tout cas en tant que co-abonné, alors qu'il en coûte peut-être 60 ou 80 en tant que propriétaire, on peut vite avoir plusieurs centaines d'euros d'économie sur la plateforme avec un ou deux abonnements uniquement.
C'est quoi pour vous, on voit hein, 660 000 splitters aujourd'hui, ça veut dire que les chiffres augmentent, vous avez été créé en 2019, donc on est sur une phase plutôt ascendante. Qui dit start-up dit rentabilité, souvent problème de rentabilité, on peut être bien valorisé mais pas forcément être rentable. Vous en êtes où vous aujourd'hui, Guillaume?
On est tout proche de l'équilibre, on n'est pas encore complètement à l'équilibre, on est sur un business model, une activité où il faut de la volumétrie et de la récurrence, parce que nous, on permet à nos clients d'économiser des dizaines d'euros tous les mois, voire plus, mais nous, on prend une micro-commission tous les mois sur les transactions, donc on est des gains centimes, entre guillemets. Donc effectivement, il faut faire du volume et de la récurrence pour espérer en vivre, mais on est pas loin d'effectivement trouver l'équilibre sans... en faisant très attention à toutes nos dépenses. Et on est une société, je tiens à le dire, 100% française, avec du développement qui est tout fait en interne, avec des collaborateurs en France.
Et une volonté justement d'aller sur l'autofinancement. Vous n'avez pas, pour le moment, vous n'avez pas encore ouvert le capital à des investisseurs ou à des grands fonds d'investissement pour justement essayer d'aller plus vite, plus loin, plus fort.
Bah écoutez, c'est une vraie question. Est-ce qu'on continue avec ce modèle où on développe avec nos propres moyens, à notre rythme? Ou est-ce qu'effectivement on fait une levée de fonds plus importante? On a envie de réaliser certaines choses avant de quelque part potentiellement faire une levée ou pas. Et dans ces choses, c'est d'offrir une solution qui soit 100% mobile. Aujourd'hui, on est un site web uniquement. Dès demain, on aura, enfin, dans quelques semaines, jours, on aura une application, une web app. Et derrière, on aura aussi des apps pour faciliter quelque part l'utilisation de nos clients. On a envie d'être vraiment européen et d'implanter partout en Europe. Et voilà, il y a quelques éléments qu'on a envie de valider avant potentiellement de faire une levée de fonds, mais ou pas d'ailleurs, parce qu'on aime bien le principe de développer une société française qui est leader sur ce marché aujourd'hui en Europe et peut-être dans le monde certainement, et qui devient.
C'est ce que j'avais posé. Vous avez des concurrents dans le monde, parce que pourtant l'idée est simple. Donc comme disent beaucoup d'observateurs de l'économie, quand il y a une idée, ça veut dire qu'il y a 10 autres personnes qui l'ont eu, ceux qui ont du succès et ceux qui savent la développer. Il y a d'autres acteurs que vous avez repérés qui fonctionnent sur le même principe que Split.
Il y a d'autres acteurs. En France, on était les premiers à se lancer sur ce marché. Depuis, il y a eu d'autres acteurs qui se sont lancés. En Italie, il y avait quelqu'un qui s'est lancé avant nous, mais qu'on connaissait pas, parce qu'on avait fait beaucoup de recherches et de veilles, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on n'avait pas trouvé de concurrents. Donc aujourd'hui, en Italie, en Espagne, en France, il y a plusieurs acteurs qui se sont lancés derrière nous. Certains ont même arrêté depuis, ont tenu 2 ans et ont arrêté. Il y en a beaucoup en Amérique latine également. Donc c'est pas un phénomène qui est uniquement français ou européen ou dans les pays latins. En Amérique latine, c'est très très présent également. Et voilà, on voit des initiatives un peu partout qui se lancent en Allemagne, quelqu'un qui a essayé de le lancer aussi. Personne n'a vraiment une couverture géographique importante. Personne ne couvre l'Europe. Nos concurrents italiens sont vraiment présents en Italie, en Espagne. Et nous, on est sur le plus de territoire, j'ai envie de dire, en Europe aujourd'hui, avec 18 pays couverts.
En tout cas, on vous souhaite plein de succès, Guillaume, pour le développement de Split, qui est une réponse aussi à la question de l'inflation, qui sera au cœur de nos échanges avec Anno Q. Anatan. Nous, on fait une micro-pause et surtout, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, on retrouve non pas Pierre Collignon, mais Nicolas Masson. J'étais avec un peu d'empressement avec mon invité éco. Les habitudes sont là, mais Nicolas est bien avec nous. Pierre nous retrouvera la semaine prochaine. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Vous avez souhaité revenir sur la question du télétravail. La semaine dernière, avec Pierre Collignon, on parlait du bonheur au travail. Est-ce que c'est une utopie ou pas? Vous, aujourd'hui, vous voulez nous parler du télétravail. Pourtant, est-ce que ce ne serait pas une question qui est finalement réglée, le télétravail, Nicolas?
Non, en fait, le sujet revient très fort. On aurait pu penser, Patrick, que le télétravail était une question réglée, mais il n'en est rien. Depuis quelques mois, des entreprises sont revenues en arrière. Amazon, avec Jeff Bezos, a prié ses collaborateurs de venir travailler au bureau au moins 40 heures par semaine. Et en France, cela se fait discrètement, mais on voit des entreprises revenir sur des accords pour diminuer le nombre de jours. De 3, on passe à 2, de 2 à 1.
Alors, que faut-il donc penser de tout cela, Nicolas?
Si on prend un peu de recul sur ce double mouvement en faveur puis en défaveur du télétravail, eh bien, on reçoit une formidable leçon sur ce qu'est le travail et la personne humaine. Tout d'abord, L'engouement pour le télétravail nous rappelle, et c'est nécessaire, que le travail n'est pas le tout de nos vies. Il ne doit pas se faire au détriment de la vie familiale et sociale. La pensée sociale chrétienne nous l'a rappelé. Et Saint Jean-Paul II, dans Laborem Exercens, commence en disant « Le travail est fait pour l'homme et non l'homme pour le travail ».
Donc, si je comprends bien, il est absurde de passer plusieurs heures par jour dans les transports pour aller travailler. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est pour quelles raisons les entreprises reviennent sur le télétravail ?
Si le télétravail permet incontestablement de renforcer une qualité de vie personnelle, cela se fait aussi au détriment du travail lui-même. Et c'est ce que vivent les entreprises et ce qu'elles cherchent à corriger. Tout d'abord, les difficultés pour le fonctionnement collectif sont une évidence. L'alternance de moments en équipe avec d'autres à distance rend difficile l'entraide et la communication. Mais c'est peut-être cela qu'on a découvert, que la diminution du nombre ou l'intensité des relations humaines a d'autres conséquences. La première touche à la créativité. Chez soi, chacun est attentif à sa productivité, mais beaucoup moins à la question collective. Et c'est parce qu'elles ont constaté une baisse de la capacité d'innovation de leurs équipes que certaines entreprises ont réagi. La seconde, c'est le développement des compétences. L'entraide et l'échange spontané, présents sur un plateau ou dans le couloir, sont absolument nécessaires à la transmission. Enfin, et ce n'est pas le moindre, la reconnaissance. Pour exister, nous avons besoin que les autres nous renvoient ce que ce nous faisons est bon, que nous sommes utiles. C'est beaucoup plus fort en présence qu'à distance. Quand la personne est chez elle, seule, elle peut même développer un sentiment d'invisibilité, et ce qui se traduit par aussi des difficultés psychosociologiques.
Alors évidemment, on est dans l'écho des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions, Nicolas, face à cela, à part retourner au travail ?
Retrouver le travail, bien sûr, mais surtout lui rendre toute sa richesse humaine. Alors, ce n'est pas tant une solution qu'une route à suivre, et toute personne a besoin d'être créative, reconnue, de progresser dans ses compétences. Il est donc nécessaire de porter beaucoup d'attention aux relations dans le management et le travail en équipe dans tous les temps collectifs. C'est un nouveau défi pour les entreprises qui, dans le fond, et on va le remercier le télétravail, va dans le bon sens.
Merci beaucoup Nicolas Masson. On vous retrouvera dans le courant de l'année. Vous serez le joker de Pierre Collignon. On fait une pause musicale tout de suite dans l'écho des solutions avant de retrouver notre invité Anaud Kuanatan. Il est économiste, il vient de sortir un livre, il nous parle d'inflation et de nouveaux pauvres. C'est bien pessimiste tout ça. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'optimisme ? C'est ce qu'on va voir avec notre invité. On fait une pause musicale, on se retrouve tout de suite après.
Spasele mi harmar pai, spasele mai noreka, inka sindia sa selem a, spasele uja manak chega, yes spasele vorme kalini, kyan kasnali ovin ka pochi.
C'était Wayo Waya, interprété par La Divina sur RCF. On retrouve tout de suite notre invité du dossier de l'écho des solutions. Il s'agit d'Anaud Kuanatan, économiste, avec qui on va évoquer la question de l'inflation et de ses nouveaux pauvres.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, je vous l'annonçais au début de cette émission, je suis avec Anouk Kuanatan, qui est économiste à l'université, il est docteur de l'université Paris-Dauphine. Vous avez occupé un certain nombre de fonctions, Anouk, dans le secteur financier. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et vous enseignez l'investissement responsable et la data science à Neoma Business School. Quand j'ai dit tout ça, j'ai eu simplement oublié une seule chose, c'est de vous saluer. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez édité au début de l'année un ouvrage aux éditions du Cerf qui s'appelle « Les nouveaux pauvres, inflation, vie chère, qui pour payer l'addition ?» Le titre est très évocateur. Ça veut dire qu'en fait, il y a des victimes de l'inflation à Anouk Kuanatan. Et puis après, on reviendra un peu sur le contenu de l'ouvrage.
Alors absolument, il y a toujours eu des victimes de l'inflation, parce qu'on le rappelle, hein, l'inflation c'est ce phénomène de hausse des prix, et donc forcément les citoyens aux revenus les plus modestes ont toujours eu des problèmes lorsque les prix des biens et services, notamment les biens et services essentiels, augmentent. Ça a toujours fait entre guillemets des victimes parmi les ménages les plus précaires.
Bien sûr.
La particularité depuis 2021, c'est qu'on se rend compte que cette inflation, elle a aussi été dommageable à une plus large partie de la population.
Et la classe moyenne.
En France et en Europe, absolument. Donc la classe moyenne, qui durant les 30-40 dernières années avait plutôt vu ses dépenses incompressibles comme l'alimentation ou l'énergie, dans les postes de dépenses diminuées, il y a eu un véritable choc inflationniste important. Et par ailleurs, de même sur un certain nombre de biens de consommation qui étaient devenus peu chers grâce au digital, grâce à la mondialisation, où là aussi, en fait, on a vu des hausses de prix assez conséquentes.
Alors, comme on est dans une émission qui se veut aussi un peu pédagogique, moi, l'inflation, on entend parler tous les jours. Si on est bien documenté, on sait un peu à quoi elle est due. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui cause de l'inflation ? On a l'impression que c'est pas monofacteur, l'inflation.
Alors non, il y a un grand nombre de facteurs qui peuvent causer de l'inflation. Mais si vous voulez, pour être très schématique et très simple, il y a de l'inflation, c'est-à-dire une tension sur les prix, lorsque vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que si pour un certain produit, vous avez beaucoup de demandes et que l'offre ne peut pas suivre cette demande, et bien forcément, les prix peuvent avoir tendance à augmenter et inversement. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Mmh. C'est-à-dire que vous avez aussi des comportements et des effets sociologiques. Je prends un exemple très simple qui est assez éloquent. C'est si vous prenez par exemple les produits de luxe. Les produits de luxe sont très chers et même s'ils sont très chers, il y a plus de demandes que de produits sur le marché. Pour autant, les marques ne vont pas augmenter les prix. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de maintenir un prix élevé pour afficher de la désirabilité, mais continuer d'augmenter indéfiniment les prix, ça peut aussi avoir des répercussions négatives puisque les consommateurs pourraient aller vers d'autres marques ou tout simplement décider de ne plus avoir envie d'acheter ces produits. Donc, vous avez quelque chose d'assez fondamental qui est lié à l'offre et à la demande, et puis ensuite un certain nombre de facteurs qui peuvent jouer, comme les stratégies des marques, la psychologie des individus, etc.
Et est-ce que les politiques économiques des gouvernements peut être un des vecteurs du démarrage ou de la continuité de l'inflation? Pour lutter contre l'inflation, il y a plusieurs solutions. Pendant longtemps, ça a été d'allonger de mettre de la monnaie en circulation. Si j'ai bien compris, si je me souviens bien, de mes cours d'économie. Mais aujourd'hui, les politiques économiques, elles sont plus complexes parce qu'elles sont au niveau européen. On va prendre nos territoires et on va prendre la France et nos territoires européens.
Alors, vous avez tout à fait raison. La politique publique a effectivement un impact conséquent. Parce qu'encore une fois, si je reviens assez basiquement à l'offre et la demande, l'un des vecteurs fondamentaux de la puissance publique, c'est la banque centrale. C'est-à-dire, la banque centrale fixe le coût de l'argent. Combien ça coûte d'emprunter de l'argent, c'est-à-dire de pouvoir obtenir de l'argent pour consommer aujourd'hui plutôt que d'attendre l'année prochaine ou dans 2 ans. Et en fonction du coût de l'argent, vous avez plus ou moins d'incitation à emprunter ou à épargner. Donc, typiquement, lorsque les taux sont bas, ça peut inciter les ménages à prendre du crédit. Et donc, bah, si elles ont du crédit, ça veut dire qu'elles peuvent dépenser davantage et ça fait augmenter la demande, ce qui peut entraîner des pressions inflationnistes. Et inversement, lorsque les taux sont élevés, ça décourage le crédit, ça va plutôt inciter les ménages à épargner et donc ça fait baisser la demande et potentiellement ça peut donc faire baisser les prix et donc baisser l'inflation.
Alors à l'époque, on pouvait, il y avait une politique en France quand on avait encore le franc à la fin du XXe siècle qui était de dévaluer pour pouvoir permettre d'être un peu plus compétitif sur les marchés. Comment ça se passe au niveau européen maintenant qu'on a une monnaie unique? C'est la banque centrale, comme vous dites, qui gère tout. Et on voit bien, si on regarde un peu l'inflation dans les différents pays, qu'on n'est pas tous mangés de la même manière, qu'on soit en Italie, en Allemagne ou en France ou en Pologne.
Alors effectivement, les dévaluations qu'on a pu vivre dans les années 80, c'était avant tout des politiques qui permettait aux industries domestiques françaises de gagner en compétitivité prix, c'est-à-dire de faire en sorte que les produits français étaient relativement moins chers pour les marchés extérieurs. La problématique de faire ça, c'est qu'en fait, ça alimente l'inflation. Parce que si votre monnaie vaut moins, ça veut aussi dire que tout ce que vous importez, au hasard du pétrole, devient plus coûteux. Donc ça, c'était effectivement quelque chose qui était utile pour relancer l'économie, mais qui, d'un point de vue de gestion de l'inflation, n'était pas forcément une bonne chose. Et par ailleurs, on va dire que depuis les années 90, les grandes banques centrales du monde occidental ne pratiquent plus de dévaluation. C'est-à-dire qu'elle laisse faire le marché en ce qui concerne la fixation des taux de change, et donc les banques centrales n'interviennent plus sur cette variable-là. Elles jouent essentiellement sur le taux d'intérêt, comme je l'expliquais tout à l'heure.
Alors on parle de l'inflation et on va parler de ses effets, parce que si votre livre s'appelle Les Nouveaux Pauvres, c'est qu'ils ont des effets, et parfois des effets perverses. Mais l'inflation est calculé à partir d'un indice, c'est l'indice INSEE de l'inflation. On a évoqué avec plusieurs de nos invités tout au long de ces 6 années d'existence de l'Écho des Solutions de la problématique des indicateurs. Est-ce qu'aujourd'hui cet indicateur INSEE est le bon indicateur?
Alors l'indicateur INSEE, comme tout indicateur, son principal mérite c'est d'exister.
Et son principal défaut c'est d'exister.
Et son principal défaut c'est qu'il ne prend pas en compte la complexité et l'hétérogénéité des situations. L'inflation calculée par l'INSEE se base sur un panier moyen de consommation de biens et de services. Ce panier moyen est le panier de personnes, en fait, puisque chacun d'entre nous a un panier différent. Si vous êtes un rural, que vous n'avez pas d'enfants, que vous n'avez pas de crédit, vos postes de dépenses
ne sont absolument pas les mêmes
que si vous êtes un urbain avec une famille, un loyer ou un crédit à charge. Donc véritablement, l'inflation qui peut être vécue et ressentie par chacun d'entre nous et peut être fortement différent des chiffres qui sont publiés par l'INSEE, parce que nous avons des modes de consommation et des habitudes de consommation qui peuvent être très différentes.
Alors, en quoi cet ouvrage, donc les Nouveaux Pauvres, en quoi justement, quels sont les différents effets qui font que on rentre dans une forme de précarité et de création peut-être d'une nouvelle catégorie, ce que vous appelez les Nouveaux Pauvres? Dans votre ouvrage, vous en soulignez plusieurs. Tout d'abord, vous dites que l'inflation c'est devenu un impôt sur les travailleurs. J'ai eu un peu de mal à comprendre comment l'inflation pouvait devenir un impôt.
Alors c'est bien sûr une image, si vous voulez. Traditionnellement en économie, on a toujours considéré, et ça a été le cas même durant mes études qui datent d'à peine 20 ans, on avait l'habitude de dire que l'inflation était un impôt sur les rentes. C'est-à-dire que les salaires, en fait, les salariés avaient des ajustements de salaire, tandis que le rentier, en fait, il a des revenus qui lui sont certes garantis, mais qui sont relativement fixes pendant une période assez longue. Et donc, avec l'inflation, en fait, lui, il perd du pouvoir d'achat. Et donc, on avait tendance à dire que l'inflation était un impôt sur les rentes. Moi, ce que je souligne aujourd'hui, et il y a d'ailleurs beaucoup d'économistes qui le soulignent aujourd'hui, c'est que depuis une quarantaine d'années, on assiste à une déformation du partage de la valeur ajoutée. Mmh. Donc pour le résumer très simplement, aujourd'hui, un salarié bénéficie moins de hausses de profit qu'il n'en bénéficiait il y a 40 ans. Et donc, en réalité, la problématique, c'est que c'est les hausses de prix pratiquées par les entreprises, mmh. donc leur permettent de faire davantage de profit. Sauf que la part de ce profit supplémentaire qui est redistribué aux salariés aujourd'hui est moindre que ce qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Et donc, en fait, le salarié, aujourd'hui, lorsqu'il y a des épisodes inflationnistes, se retrouve en moins bonne posture que ce qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. En rappelant, bien entendu, que jusqu'à la fin des années 70, en France, nous avions une indexation.
C'est ça, des salaires sur l'inflation, et qu'elle a disparu à cette période-là parce qu'elle était trop importante et donc risquait de mettre à mal l'ensemble du secteur économique qui ne pouvait pas suivre ou qui ne pourrait pas suivre.
Alors, en fait, on a mis un terme à l'indexation pour une raison très simple, c'est que dans les années 70, si vous vous rappelez, l'inflation provenait surtout des chocs pétroliers.
Mmh. De 74 et donc, 79.
Exactement. Et donc, en fait, les entreprises françaises n'avaient aucun contrôle sur le prix du pétrole. Mmh. Donc, elles voyaient le prix du pétrole augmenter et on leur demandait en même temps d'augmenter les salaires des employés. Sauf qu'en fait, elles avaient un poste de coût qui augmentait et pas forcément des profits ou des revenus qui augmentaient autant. Mmh. Donc, elles se retrouvaient un petit peu, si vous voulez, pris dans un sort d'étau. Et on a décidé de desserrer cet étau en disant, bah, effectivement, on va peut-être arrêter l'indexation. Mmh. Sauf que quand on regarde l'inflation des deux dernières années, en fait, les profits des entreprises ont augmenté. Et pourtant, quand on regarde l'évolution des salaires réels, c'est-à-dire l'évolution des salaires ajustés de l'inflation, en France, on estime qu'à fin 2024, les Français auront retrouvé leur pouvoir d'achat de fin 2019.
D'accord, parce qu'il y aura eu justement ces stabilisations, ces mises à niveau des salaires, ces mises à niveau.
Parce que il y a eu effectivement des pertes de pouvoir d'achat en 2022. Il y a un peu de rattrapage et il y a une inflation qui conjoncturellement est en train de diminuer. Donc on estime que à fin 2024, le pouvoir d'achat des Français sera revenu à peu près au niveau de fin 2019.
Alors on parle de l'inflation avec ce paradoxe finalement que vous mettez un petit peu en évidence, à la fois la mondialisation peut être une source de création de nouvelles pauvretés puisque si j'ai bien compris, les salaires n'augmentent pas en proportion des revenus des capitaux des actionnaires et des résultats. Et en même temps, vous nous dites que la démondialisation peut être un ennemi pour notre porte-monnaie parce que finalement, tout ce qui est mis en place de circuits courts, de sobriété, tout ça finalement de protectionnisme risque aussi de coûter aux contribuables, de coûter aux citoyens.
Absolument, vous avez tout à fait raison. En fait, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent notamment lorsque l'on écoute les discours politiques qui voudraient refaire de la réindustrialisation, de la souveraineté économique. Mmh. Tout ça, ce sont des revendications parfaitement légitimes et compréhensibles après l'épisode 2 qu'on a vécu lors de la pandémie. On a vu que nos économies étaient extrêmement dépendantes des autres pays.
Donc ça veut dire, si je vous coupe, ça veut dire qu'il faut faire gaffe à toute cette politique économique que l'on peut avoir aujourd'hui en France, de dire qu'il faut réindustrialiser, il faut être complètement autonome, il ne faut plus qu'un Covid, il ne faut plus qu'une guerre en Ukraine ou une dépendance de qui que ce soit avec quoi que ce soit.
Alors, je dis pas que c'est inopportun de tenir ce genre de discours. Je dis que ce discours doit être accompagné d'un discours sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée. Mmh. Parce que la problématique, c'est que demain, on réindustrialise. Bah, en fait, ça veut dire que tous les produits qu'on va produire sur notre sol, on le sait, seront plus chers que les produits importés de Chine ou de Turquie. Mmh. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que nos citoyens aient bien les moyens de s'acheter et de pouvoir consommer ces biens ? Mmh. Pour ça, il faut augmenter les salaires. D'ailleurs, on parle de réindustrialisation. Les salaires des ouvriers, c'est un véritable sujet. Comment est-ce qu'on veut réindustrialiser dans ce pays en proposant des salaires extrêmement bas dans l'industrie où effectivement, en plus, on parle de postes dont la pénibilité est élevée.
Ce sera le sujet de l'émission de la semaine prochaine sur le développement des compétences dans l'industrie.
Très bien, j'anticipe votre prochaine émission. Mais véritablement, en fait, ce que je reproche, c'est pas véritablement d'avoir des intentions politiques qui sont vers de l'autosuffisance ou de l'autonomie, de la souveraineté. La réalité, c'est de dire qu'on va aussi prendre en compte l'ensemble de l'impact que ça peut avoir pour les consommateurs et les salariés, et qu'il faudra également prévoir en fait des mécanismes correctifs pour faire en sorte que les salariés et les consommateurs ne soient pas lésés.
Mmh. Alors en vous écoutant, j'entends bien que cette question de la réindustrialisation est importante et qu'il faut qu'elle soit suivie par les salaires. Est-ce que ça veut dire que l'inflation que l'on connaît aujourd'hui est une inflation tendancielle ? C'est-à-dire, en fait, on a eu trop d'événements, trop d'un coup, d'un seul coup.
Alors effectivement, on a eu des chocs multiples. Vous avez raison de le souligner. On a eu des chocs multiples puisqu'on a eu à la fois la Covid qui a perturbé les chaînes de valeur internationales, les gouvernements qui, durant la pandémie, ont également subventionné, soutenu les économies, les ménages et les entreprises. Du coup, les ménages et les entreprises avaient, entre guillemets, de l'argent à dépenser à la sortie de la pandémie. Donc, encore une fois, si on reparle de cet équilibre offre et demande, on avait une demande qui était atrophiée à cause de la pandémie, et vous aviez une demande qui a explosé.
Par
rapport à une offre qui était atrophiée. Ouais. Donc, ça a créé des tensions inflationnistes. Par-dessus ça, est arrivée la guerre en Ukraine, qui a exacerbé les tensions sur les prix du pétrole et des matières premières agricoles. Mmh. Et donc, si vous voulez, vous avez eu un enchaînement de chocs qui ont très fortement tendu les prix d'un grand nombre de biens et de services.
Donc, si je comprends bien, cette inflation, elle est tendancielle, c'est-à-dire qu'on va revenir. Alors, on va peut-être pas revenir au prix d'avant, mais on va avoir quelque chose qui va stagner, ou finalement, on va revenir à quelque chose d'équivalent aux années passées, je veux dire.
Je pense qu'il faut effectivement très clairement dire qu'on ne reviendra pas au prix de 2019. Pour un grand nombre de biens et de services, parce que ça voudrait dire qu'il y a de la déflation. Mmh. Et ça, c'est pas très bon. Mauvais pour l'économie, c'est encore pire que l'inflation. le Japon a eu une économie qui était enlisée dans la déflation pendant une trentaine d'années, et c'est effectivement une situation très très compliquée à gérer. Donc il n'y aura pas de déflation, on ne reverra plus les prix d'avant.
Donc, notre plein d'essence à 1 euro, alors
Il me semble que oui. Il me semble que oui. Après, encore une fois, l'important, c'est pas forcément de regarder le prix
à la pompe, mais le pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça.
Exactement. J'ai envie de dire, il est plus pertinent de vous dire, est-ce que votre plein vous coûte une semaine de travail, ou est-ce que votre plein vous coûte deux jours de travail. Ça, c'est le bon rapport pour évaluer véritablement le niveau des prix par rapport à vraiment votre pouvoir d'achat et vos revenus.
Alors, on pourra le voir aussi sur la question de l'urgence climatique, parce que j'aime bien votre titre, il faudra mettre la main à la poche. Mais je rebondis sur ce rapport justement au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des personnes âgées va être particulièrement impacté, parce que autant le SMIC peut être impacté par l'inflation, puisqu'il lui reste un petit peu indexé, mais pas forcément sur les retraites aujourd'hui. Est-ce que nos nouveaux pauvres, ce ne sont pas nos vieux ?
Alors, globalement, en France, encore une fois, je parle en moyenne, vous avez des retraités qui ont des situations précaires, mais en moyenne, les retraités ont un niveau de vie de 5% supérieur à celui des actifs. Donc, globalement, les retraités ont une situation, entre guillemets, un petit peu plus confortable que les salariés. Encore une fois, je parle en moyenne. Donc, à ce stade, je pense que ils sont potentiellement moins à risque que vraiment les salariés et les travailleurs de la classe moyenne. Mais bien entendu, hein, encore une fois, il y a des retraites précaires, il y a des gens qui vivent avec le minimum vieillesse, et effectivement, pour ces populations-là...
Est-ce que ce n'est pas les retraites des classes moyennes qui vont être finalement, encore une fois, j'ai envie de dire, les plus impactées, parce que c'est ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'économies et qui commencent à puiser dedans, ils n'ont pas droit forcément à des aides, à des accompagnements? Est-ce que ce n'est pas sur ces seniors-là que cette inflation va le plus peser?
Absolument. De toute façon, mon diagnostic, il est assez simple, que ce soit sur les retraités ou sur les actifs. C'est que aujourd'hui, les gens qui, avant la pandémie, avaient, on va dire, entre 10 et 20% de leurs revenus qu'ils pouvaient consacrer à, j'ai envie de dire, des dépenses de plaisir, ou de l'épargne, je pense que ces gens-là ont vu leur qualité de vie se réduire très fortement. Donc ils ont dû soit faire des sacrifices sur certains postes de dépenses, soit réduire leur épargne, soit quasiment puiser dans leur épargne. Et ces gens-là, en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé le titre de les nouveaux pauvres. Ces gens-là ont vécu lors des deux dernières années un déclassement. Au-delà même de parler de précarité, ont vécu un véritable déclassement.
On ne va pas tout dire sur votre ouvrage, mais c'est qui, c'est finalement, parce qu'on a tourné un peu autour du pot, c'est qui ces nouveaux pauvres de demain, Anno?
Alors, c'est mon diagnostic et mon pronostic, mais pour moi, effectivement, les nouveaux pauvres de demain qui sont à risque de toutes ces tendances structurelles que j'étaye dans mon ouvrage, c'est ce que je qualifierais comme la classe moyenne, et également ce que j'appelle la petite bourgeoisie. Typiquement, ces personnes qui ont encore un petit peu de marge pour des loisirs, de l'épargne, etc., mais qui savent très bien que cette marge, en fait, elle n'est pas colossale, et qui suffit d'un choc important pour que leur niveau de vie diminue de façon significative.
Et l'État est prêt? L'État, vous avez le sentiment, en tant qu'observateur, que l'État a pris conscience de ce risque-là, d'accompagner ces nouveaux pauvres de demain?
Alors, l'État, je pense qu'il est conscient du risque. Il a essayé de mettre en place certaines mesures. Le problème, j'ai envie de dire, c'est que, d'une part, l'ensemble des mesures qui ont été mises en place ont en fait creusé le déficit de la France. Et deuxièmement, c'est que elles ont creusé le déficit alors que, si vous voulez, la doxa ou le schéma dominant de pensée dans la gestion des affaires publiques reste qu'il faut réduire la dette. Donc ça veut dire que là, on a accepté de faire de la dépense et d'augmenter la dette, mais on sait que demain, en fait, il y aura des hausses d'impôts ou des baisses de services publics qui, de nouveau, en fait, vont pénaliser les populations. Donc, en réalité, malheureusement, de mon point de vue, toutes les mesures qui ont été faites, c'est reporter la peine à plus loin.
Alors, dans tout ça, quand on vous écoute, quand on vous lit, pour moi, il y a beaucoup de pessimisme. En tout cas, c'est quoi les chemins d'espérance? Qu'est-ce qui vous met en mouvement dans tout ça, Anno Kuanatan?
Alors moi, j'ai écrit cet ouvrage avec deux choses en tête, dans la tête et dans le cœur. La première, c'est, je pense, et je le vis en tant qu'économiste, je pense que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens, je ne pense pas par paresse, mais véritablement parce qu'on leur présente les choses de façon trop complexe, se sont désintéressés des sujets économiques. Et j'aimerais vraiment que tous les citoyens s'emparent de ces problématiques et qu'ils se politisent, en tout cas qu'ils se forgent une opinion forte sur ces sujets, parce qu'aujourd'hui, on a laissé nos politiques faire, on leur a donné carte blanche, et durant les 20 dernières années, on a eu 3 crises majeures, avec la crise financière, la crise de la dette et la crise que nous traversons actuellement. Donc, je pense que nos citoyens doivent reprendre un peu de contrôle sur ces sujets. Mmh. Et la deuxième chose que j'avais en tête, c'est que effectivement, face à l'urgence climatique, face aussi, je pense, à la crise de société qu'on vit, il me semble que, écoutez, si tout devient plus cher, ça devrait nous inviter à la sobriété.
Donc aller un peu plus vers un peu plus de sobriété pour justement retrouver un peu plus de frugalité, de sobriété. Vous le disiez d'ailleurs aussi à l'instant, Anno, l'important finalement de chacun d'agir. Hein. Je dis souvent qu'à tous, on peut tout. D'autres disent qu'il faut qu'on prenne la main sur demain. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette question de l'inflation, sur ces risques qu'elle fait peser. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Les nouveaux pauvres » aux éditions du CERF. « Inflation, vie chère, qui pour payer l'addition ?» Un ouvrage très, très simple d'accès. Hein. On n'est pas obligé d'être un grand économiste pour pouvoir y accéder. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du dossier de cette semaine. Et puis nous, on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde.
Merci beaucoup, Patrick.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, je suis avec mon invité de cette semaine. Il s'agit de Laurent Marteau. Bonjour Laurent.
Bonjour Patrick.
Alors vous êtes directeur de l'agence Grand Ouest Coopération à la Banque Populaire Grand Ouest, qui couvre l'ensemble de la région Bretagne et Pays de la Loire et un petit peu de Normandie, je crois, c'est ça ?
Également la Normandie.
Et un petit peu de Normandie. Grand Ouest Coopération qui fête ses 10 ans. On évoque beaucoup et on a évoqué la question de l'inflation dans l'éco des solutions. L'inflation, elle est au cœur des problématiques. Et Grand Ouest Coopération est une agence bancaire un peu particulière, puisqu'en fait, c'est l'agence du CARE, c'est l'agence qui prend soin de ses clients et de ses entreprises. Racontez-nous un petit peu l'histoire. C'est quoi l'objet de cette agence très particulière au sein du groupe Banque Populaire Grand Ouest ?
Alors, l'agence Grand Ouest Coopération chez Banque Populaire Grand Ouest, c'est une agence qui a pour mission d'accompagner les clients particuliers en situation de fragilité financière et aussi d'accompagner les porteurs de projets lorsque ces porteurs de projets créent leur entreprise. Mmh. D'accord. Si on va faire un petit peu d'histoire, alors très rapide, on va revenir 10 ans en arrière.
10 ans, bah oui, puisque vous fêtez vos 10 ans. C'est aussi l'objet du pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui.
En 2014, l'Association française des établissements des crédits et des entreprises d'investissement, donc ce qu'on appelle la FECEI, ont élaboré ce qu'ils appellent une charte de l'inclusion bancaire et de prévention de surendettement.
Donc, c'est-à-dire, en gros, on fait attention à nos clients pour pas qu'ils tombent justement dans le surendettement, parce qu'on sait combien il y a d'autres effets pervers à partir du moment où on est une personne surendettée.
Absolument. Cette charte a été donc établie en 2014. Les 4 objectifs sont les suivants. C'est renforcer l'accès aux services bancaires et aux moyens de paiement. Mmh. C'est de limiter les frais d'incident et d'irrégularité. Donc, il y a été créer une offre qu'on appelle une offre spécifique, l'offre de clientèle fragile, qui limite donc les frais. Et le troisième objectif, c'est détecter et accompagner les clients en situation de fragilité.
Quand vous parlez de cette charte, c'est pour l'ensemble du système bancaire ?
C'est tout à fait pour l'ensemble du système bancaire.
Et alors, à quel moment Grand Ouest Coopération, la Banque Populaire Grand Ouest, intervient et crée finalement cette agence très spécifique ?
Et alors justement, Banque Populaire Grand Ouest a été précurseur dans ce dispositif, puisque Banque Populaire Grand Ouest a décidé en 2013 de créer une agence dédiée. Donc la première agence a été créée sur Nantes en juin 2013. Nous avons créé cette agence à titre expérimental dans un premier temps. On s'est dit on va voir comment fonctionnera cette agence sur les premières années. Et fort est de constater que, fort de ce succès, nous avons créé une deuxième agence en 2019 à Rennes, de telle sorte qu'on a dupliqué le modèle Grand Ouest Coopération de Nantes sur l'ensemble du territoire Banque Populaire Grand Ouest.
Alors, racontez-nous un petit peu, parce que qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette agence ? Je suppose que, contrairement aux autres agences bancaires, on vient pas, on pousse pas une porte et on voit pas un directeur d'agence. À qui elle s'adresse ? Vous disiez entreprises et particuliers. Commençons peut-être par ce que nos auditeurs attendent, c'est-à-dire par les particuliers. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un particulier, c'est mon agence qui m'envoie vers Grand Ouest Coopération ?
Alors très concrètement, ce qui nous distingue des autres établissements bancaires, c'est que les conseillers ont vraiment cette vocation de rencontrer les clients en situation de fragilité financière, mais les clients qui sont dans une démarche volontaire d'insertion, de réinsertion professionnelle, donc soit vers le salariat, ou soit en créant leur propre emploi, c'est-à-dire leur propre entreprise.
Donc ça veut dire que ces particuliers sont déjà dans une grande précarité, sont des personnes qui sont sans emploi, qui arrivent finalement soit en bout de droit, soit en bout de tout, et qui doivent à un moment donné pouvoir rebondir.
Alors, la force de Grand Ouest Coopération, c'est qu'il n'y a pas de profil client type que nous recevons dans notre structure. Comme vous le disiez très justement, ce sont les conseillers des agences de proximité qui détectent une situation de fragilité financière, qui en parlent au conseiller Grand Ouest Coopération. Et le conseiller Grand Ouest Coopération se met en relation directe auprès du particulier. Il rencontre le particulier en agence. Donc, comme je vous le disais, les conseillers Grand Ouest Coopération sont mobiles sur l'ensemble du territoire. Ils font ce qu'on appelle un entretien exploratoire qui a un seul but, c'est de gagner la confiance du client, de connaître les tenants et les aboutissants de la difficulté financière et d'essayer ensemble de trouver des solutions adaptées.
Donc finalement, on est entre le conseil financier, le conseiller social, même si vous n'êtes pas des travailleurs du social, mais il y a une dimension sociale pour pouvoir justement trouver la bonne solution et la bonne démarche à prendre.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que les conseillers de Grand Ouest Coopération, lorsqu'elles rencontrent des particuliers, font... dans le cadre de l'entretien exploratoire, ils font une approche budgétaire très poussée, de telle sorte qu'ils peuvent apporter des conseils et des préconisations. Ça peut être sur tous les domaines. Ça peut être, par exemple, limiter ou faire le tri dans tout ce qui est offre téléphonie. On s'aperçoit aussi qu'il y a des clients qui ont des abonnements et qui ne connaissent pas le nombre d'abonnements qu'ils ont. Ça peut être aussi donner des conseils sur les possibilités qui existent en termes d'aide sociale, et notamment nous avons des relations avec quelques CCAS ou quelques UDAF pour que le client puisse rencontrer...
Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces clients, en fait, parfois, ne connaissent pas les mécanismes d'aide qui pourraient les sortir des problématiques financières dans lesquelles elles sont ?
C'est exactement ça, Patrick. C'est-à-dire qu'on apporte des conseils également sur les personnes... à contacter lorsqu'il y existe des dispositions autres que des dispositions bancaires. Oui, effectivement, la banque a des possibilités d'accompagnement qui, malgré tout, restent limitées dans le domaine bancaire. Mais il y a aussi des solutions extra-bancaires. Et là, en l'occurrence, effectivement, on peut orienter ces clients-là vers des solutions extra-bancaires.
Et le mécanisme derrière, c'est un mécanisme de quoi ? De prêt, de microcrédit, comment on fait pour ne pas en rajouter, j'ai envie de dire, du poids au poids ?
Alors effectivement, et là vous appuyez sur un élément très important, c'est que Grand Ouest Coopération a cette particularité, c'est que nous mettons en place ce que l'on appelle le microcrédit personnel. Donc c'est un microcrédit qui permet, dans le cadre... des dispositifs réglementaires, de financer tout ce qui concerne la mobilité. Donc c'est à 98% les véhicules, les réparations, les permis de conduire, pour que les clients puissent retrouver
une forme d'autonomie et une forme de, j'ai envie de dire, de capacité à pouvoir pourvoir un emploi. On sait très bien que des fois le fait de ne pas avoir le permis de conduire peut être extrêmement pénalisant pour obtenir un emploi, parce qu'il y a besoin de se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. Et puis si c'est des travails de commerciaux, simplement pouvoir se rendre chez le client.
Alors c'est ça. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens habitent dans les zones périphériques des grandes villes ou même en zone rurale. Et lorsque vous n'avez pas de véhicule, vous êtes doublement pénalisé parce que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour aller retrouver un emploi.
Je vois le temps qui passe. Alors le deuxième pilier, Laurent Marteau, c'est le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il s'accompagne de la même manière que le particulier ? Pour le particulier, c'est l'agence bancaire du particulier qui vous met en relation avec la personne qui a des problèmes. Pour l'entreprise, comment ça se passe ?
Pour l'entreprise, c'est totalement différent. L'entreprise, chez Grand Ouest Coopération, nous accueillons les prospects, c'est-à-dire les porteurs de projets qui ne sont pas clients Banque Populaire Grand Ouest, mais qui ne trouvent pas de réponse dans les réseaux bancaires classiques, de par la nature de leur activité, leurs projets atypiques ou même par leur situation personnelle. parce que ces personnes-là sont soit en précarité ou n'ont pas suffisamment d'apport dans leur dossier de financement. Et la particularité pardon, de Grand Ouest Coopération, c'est de mettre en place pour ces porteurs de projets le microcrédit professionnel. Alors le microcrédit professionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un microcrédit qui va jusqu'à 25 000 euros. Et nous avons un accord, nous avons un partenariat avec France Active ou même avec l'ADI pour pouvoir accompagner ces porteurs de projets.
Alors 10 ans, ça se fête, ça se célèbre, on est dans une période dite d'inflation. Au bout de 10 ans, quel bilan on peut tirer ? Vous avez de plus en plus de dossiers, ça s'accélère là depuis quelques mois, depuis le début de l'année 2023, ça décélère plutôt. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quel bilan on peut tirer de ces 10 années ?
Alors notre grande fierté aujourd'hui, c'est de constater que, je dirais, notre modèle est toujours pérenne. Au début, lorsque l'on avait mis en place, comme je vous l'ai dit, c'était à titre expérimental. Et on s'aperçoit que cet accompagnement est très demandé de la part de nos conseillers, Banque Populaire Grand Ouest. Effectivement, lorsqu'un client fragile, qui peut être par exemple inscrit au fichier des incidents de crédit des particuliers, théoriquement ne peut pas avoir recours à l'emprunt. Or, à Grand Ouest Coopération, nous pouvons l'accompagner grâce au microcrédit personnel. Nous avons une belle progression des microcrédits personnels et aujourd'hui, notre perspective, c'est de pouvoir accompagner ces mêmes clients sur d'autres types d'objets, comme le prévoit la loi, et notamment, par exemple, toutes les dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par les mutuelles. Et ça peut être aussi l'équipement, le premier équipement de nécessité lorsqu'une personne déménage, se déplace.
Donc aujourd'hui, l'impact, malheureusement, s'accroît, puisque vous disiez on a de plus en plus de dossiers, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de précarité. Est-ce qu'il y a d'autres modèles ? Est-ce que ce modèle-là, vous l'avez dupliqué, en tout cas, sur vos territoires à Rennes ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres structures des banques pop ? Est-ce qu'il y a d'autres structures bancaires qui ont des éléments similaires ? Parce que nos auditeurs ne sont pas tous clients et ne sont pas tous en région Pays de la Loire et en Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour nos auditeurs autres ailleurs ? Est-ce que vous en connaissez, vous ?
Les établissements de crédit, effectivement, les banques, aujourd'hui, ont une obligation.
C'est ce que vous disiez au début.
Voilà, tout à fait. C'est de s'occuper et d'avoir un regard attentif à la fragilité financière de ses propres clients. Alors, des dispositifs existent. Chaque établissement a son propre dispositif. Mais le dispositif tel qu'on le connaît à Grand Ouest Coopération est inédit, effectivement, c'est-à-dire avoir des conseillers et deux agences dédiées aux clients fragiles et à la création d'entreprises, la micro-entreprise, effectivement, c'est unique. Alors, au sein du groupe des banques populaires, d'autres banques populaires, effectivement, dupliquent ou tentent de faire
la même chose.
Il existe la Banque Populaire Rive de Paris notamment qui met en place depuis l'année dernière le microcrédit personnel. Et vous avez d'autres banques populaires qui, effectivement, s'inspirent du même modèle.
Donc, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des besoins, allez voir vos conseillers bancaires, quels qu'ils soient. De toute manière, de par la charte qui a été signée en 2014, c'est ça, Laurent Marteau. De toute manière, l'ensemble des banques sont obligées, quelque part, de vous proposer des solutions. Merci beaucoup, Laurent Marteau, d'avoir été notre invité.
Merci, Patrick.
Nous, on clôt cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts dédiées, sur rcf.fr, bien évidemment. Et on vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon moment à l'écoute de ce podcast, à l'écoute des autres podcasts de RCF. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.